VOA Afrique, le monde aujourd'hui. À Washington.
Bonsoir à tous, bienvenue dans cette édition du vendredi 11 mars 2016. Anastasie Tudiesh et John Lydon avec vous. Au sommaire ce soir.
En Angola, après 47 ans de règne sans partage, José Eduardo dos Santos quittera la vie politique en 2018.
Investi chef de l'État à la mort d'Agostinho Neto en 1979, il a concentré tous les pouvoirs.
Au Niger, l'opposant Ama Amadou est sorti de prison pour raison de santé. Son avocat a annoncé qu'il prendra part sous condition au second tour de la présidentielle du 20 mars prochain.
Le maintien de notre candidature ne veut pas dire forcément que nous allons partir aux élections du second tour si nous n'avions pas les garanties telles que nous les avons revendiquées dans notre déclaration.
C'est désormais officiel, la Ligue arabe considère le Hezbollah libanais comme une organisation terroriste.
Dans moins de 10 minutes, l'économie et les sports, mais tout d'abord, le journal.
Et nous commençons, John, au Niger, où le candidat à l'élection présidentielle, Ama Amadou, est sorti de prison pour des raisons de santé. Au micro d'Éric Manirakiza, son directeur de campagne et porte-parole, Issa Daouda Abdulaziz, a fait le point sur sa candidature et la participation ou non du camp Amadou aux élections.
Nous ne retirons pas notre candidat. Au départ, il y avait des rumeurs et une polémique sur le retrait ou pas retrait. Non, nous maintenant, nous ne désisterons pas. De toutes les façons, nous n'avons plus la possibilité de désister. Cependant, le maintien de notre candidature ne veut pas dire forcément que nous allons partir aux élections du second tour si nous n'avions pas les garanties telles que nous les avons revendiquées dans notre déclaration. Ça commence par la libération de notre candidat, c'est clair, net et précis. Et deuxièmement, c'est les gages de crédibilité de ces élections-là. Parce que lorsqu'on parle de proclamation des résultats, on parle de proclamation solennelle et publique. Mais au Niger, il n'y a pas eu encore, à ce jour, une proclamation solennelle publique des résultats. Et il n'y a pas non plus eu, dans l'arrêt que nous avons lu de la Cour constitutionnelle, il n'a jamais été mention des recours en annulation que nous avons formulés.
Quelle est la concession que vous êtes prête à faire si votre candidat est libéré et qu'entre-temps, les revendications ne sont pas résolues Est-ce que vous y allez ?
On ne votera pas.
Issa Daouda Abdulaziz, joint au téléphone par Éric Manirakiza. Vous pouvez retrouver son intervention au complet sur lavoixdelamérique.com.
En Angola, le président José Eduardo dos Santos a annoncé qu'il allait quitter la vie politique en 2018. Il a régné d'une main de fer sur le pays pendant 47 ans. Idriss Fall.
Âgé de 73 ans, José Eduardo dos Santos a annoncé devant le comité central du MPLA sa décision de quitter la vie politique en 2018. Son mandat expire l'année prochaine et il n'a pas dit pourquoi il resterait au pouvoir une année de plus. Investi chef de l'État à la mort d'Agostinho Neto en 1979, il a concentré tous les pouvoirs. Après 27 ans de guerre civile fratricide avec l'UNITA de Jonas Savimbi, ce marxiste s'est tourné vers l'économie de marché. Sa propre famille s'est beaucoup enrichie. Selon le magazine Forbes, sa fille Isabel dos Santos est la femme la plus riche d'Afrique. Ces dernières années, M. dos Santos a musclé la répression face à la grogne sociale. La manne pétrolière s'est réduite pour le deuxième producteur d'or noir du continent. En une année, le kwanza, la monnaie nationale, a perdu 35% de sa valeur face au dollar. En juin dernier, 17 jeunes militants qui demandaient son départ ont été arrêtés et leur procès se déroule presque à huis clos.
Dans un nouveau rapport dénonçant notamment les exactions commises par le gouvernement du Sud-Soudan, l'Organisation des Nations Unies tire la sonnette d'alarme. Viol, exécution, destruction systématique, la situation des droits de l'homme dans le pays est parmi les plus horribles dans le monde, indique le rapport. Les détails tout de suite avec Salwa Jafari.
Depuis la petite ville de Bantu au Sud-Soudan, le coordinateur des droits de l'homme de l'ONU, David Marshall, en dit plus.
Les principales conclusions sont que les crimes contre l'humanité et les crimes de guerre ont continué en 2015. Ils ont principalement été perpétrés par le gouvernement. Nous avons également constaté des violations par l'opposition. Ces violations identifiées en 2013, 2014 et 2015 sont similaires aux massacres des civils, des déplacements, des pillages, des enlèvements, des viols. En somme, ils terrorisent la population civile.
Pour l'ONU, l'État porte la plus grande responsabilité des violences pour l'année 2015, étant donné l'affaiblissement des forces d'opposition. Le rapport parle d'une politique de la terre brûlée menée par le gouvernement et assure que, selon des sources crédibles, des groupes alliés au gouvernement sont autorisés à violer les femmes en guise de salaire. Le Soudan du Sud, indépendant du Soudan depuis juillet 2011, après des décennies de conflits avec Khartoum, a sombré dans la guerre civile en décembre 2013, lorsque le président Salva Kiir a accusé son ancien vice-président de fomenter un coup d'État. Plus de 2 millions de personnes ont été chassées de chez elles et des dizaines de milliers tuées par la guerre et les atrocités dont les deux camps se sont rendus coupables.
Au Tchad, arrestation ce vendredi des 6 étudiants de l'université de Moundou, deuxième ville du pays, qui manifestaient pour réclamer leurs aïeurs et des paiements de bourses. Des arrestations confirmées à l'AFP par le ministre de l'Enseignement supérieur, Makai Hassan Teizo. Cette manifestation s'inscrit dans un contexte général de protestation depuis février contre Idriss Déby Itno, au pouvoir depuis 26 ans et candidat à un cinquième mandat à la présidentielle du 10 avril.
Au Zimbabwe, le gouvernement prévoit de dédommager les fermiers blancs dont les terres ont été redistribuées à la majorité noire lors de la réforme agraire débutée en 2000 et a commencé à évaluer la valeur des propriétés concernées. C'est ce qu'a indiqué aujourd'hui le ministre des Finances, Patrick Chinamasa. Cette proposition du gouvernement intervient au moment où le FMI demande au Zimbabwe d'agir rapidement pour sauver son économie. La réforme agraire avait été conduite au Zimbabwe pour contrebalancer les injustices du passé colonial où les Blancs s'étaient octroyés les meilleures terres au détriment de la majorité noire.
Au Nigeria, le président du Sénat, Bukola Saraki, troisième personnage de l'État nigérian poursuivi pour corruption, est apparu vendredi au tribunal avec une équipe de 66 avocats, a constaté un journaliste de l'AFP. Aucune explication n'a été avancée sur la présence d'une telle armada d'avocats. L'affaire Saraki représente un test décisif dans la campagne anticorruption menée par le président Muhammadu Buhari, élu il y a un an sur la promesse qu'il allait débarrasser la première puissance économique d'Afrique du démon de la corruption. Un grand nombre de personnalités, dont de nombreux collaborateurs de l'ex-président Goodluck Jonathan, sont actuellement jugés.
En Algérie, le ministère de la Défense a annoncé aujourd'hui que 3 islamistes armés ont été tués hier soir par l'armée algérienne près d'El Oued, à plus de 600 km au sud-est d'Alger. Un arsenal important a également été récupéré au cours de l'opération.
Washington, la voix de l'Amérique, vous êtes à l'écoute du monde aujourd'hui.
La France va proposer lundi à l'Union européenne de décréter des sanctions contre ceux qui bloquent la formation d'un gouvernement d'union nationale en Libye. Sur l'intervention militaire de 2011 en Libye, le président Barack Obama a critiqué 2 anciens dirigeants européens. Selon lui, David Cameron a été distrait par d'autres choses et Nicolas Sarkozy voulait se mettre en avant.
En Syrie, des élections présidentielles et législatives devront être organisées sous l'égide de l'ONU dans les 18 mois à venir. C'est ce qu'a annoncé aujourd'hui, vendredi, l'envoyé spécial de l'ONU pour la Syrie, Staffan de Mistura. Plus d'explications tout de suite avec Mélie Segel.
Des discussions sont prévues à Genève du 14 au 24 mars prochain avec la participation de représentants du régime de Damas et de l'opposition. À l'ordre du jour, 3 questions. Un nouveau gouvernement inclusif, une nouvelle constitution et de nouvelles élections, le tout sous l'égide de l'ONU. Après cette série de discussions à Genève, une pause d'une semaine à 10 jours est prévue, puis les discussions reprendront. L'émissaire Staffan de Mistura a précisé que les pourparlers se dérouleront dans des salles séparées avec les représentants de Damas et de l'opposition. En février, un précédent round de discussions organisé à Genève avait tourné court en raison d'une intensification des frappes aériennes en Syrie par la Russie, alliée de Damas. Depuis, Washington et Moscou ont négocié un accord de cessation des hostilités, accord instauré le 27 février, qui semble tenir bon malgré quelques incidents. Le régime de Damas a annoncé qu'il enverrait une délégation aux discussions à Genève. Le Haut Comité des négociations, qui rassemble les groupes clés de l'opposition syrienne, a annoncé vendredi qu'il participerait lui aussi à ces négociations indirectes.
La ministre arabe des Affaires étrangères, réunie vendredi au siège de la Ligue arabe au Caire, ont classé groupe terroriste le mouvement libanais chiite Hezbollah, a annoncé un diplomate du Bahreïn lisant à la presse une résolution de l'organisation. Créée par les gardiens de la révolution iranienne dans les années 1980, financée par Téhéran, il est le seul parti libanais à ne pas avoir déposé les armes après la guerre civile de 1975-1990. Les États-Unis, le Canada et l'Australie considèrent également ce mouvement comme une organisation terroriste.
Voilà pour le journal. Vous écoutez Le Monde aujourd'hui sur VO Afrique et voafrique.com. L'économie, c'est tout de suite celle d'Afrique et d'ailleurs. Et c'est avec Timothée Donongmaï.
MTN toujours en discussion avec les autorités nigérianes. C'est en rapport avec l'amende record de 3,9 milliards de dollars infligée par le régulateur nigérian au géant sud-africain des télécoms pour n'avoir pas respecté l'ordre de désactiver toutes les cartes SIM anonymes, une mesure prise dans le cadre de la lutte contre les islamistes de Boko Haram. Un document d'une commission du Sénat nigérian révèle que le Nigeria propose maintenant un règlement d'1,5 milliard de dollars à MTN. Toujours au Nigeria, la police a mis la main sur un groupe de contrefacteurs qui auraient imprimé de fausses coupures de dollars d'une valeur de 10 millions de dollars. C'est le chef de la police de Katsina, dans le nord-ouest, qui l'a annoncé jeudi. Et puis, les entreprises françaises tentent de reprendre pied au Maroc. À cette fin, une délégation d'une centaine d'entreprises, conduite par le président du patronat français, Pierre Gattaz, est arrivé hier dans le royaume chérifien. Le Maroc, qui a signé plus de 500 accords de coopération économique avec divers pays africains, est perçu comme un tremplin pour l'accès au reste de l'Afrique. Enfin, ici aux États-Unis, la Californie s'est dotée de nouveaux textes dans la lutte anti-tabac. Une des mesures adoptées par son assemblée fixe à 21 ans l'âge minimum pour acheter des cigarettes dans cet État.
Merci, Timothée Donongmaï.
Eric Manirakiza est dans ce studio et c'est pour parler de sport. Eric, bonsoir.
Bonsoir, bonsoir à tous.
Alors, football, affaire de la sextape, la justice ouvre à Benzema la voie de l'Euro 2016.
Oui, la justice française a levé aujourd'hui le contrôle judiciaire de Karim Benzema, une première étape selon la Fédération française de football qui ouvre la voie autour de l'attaquant star en équipe de France en vue de l'Euro 2016. La balle est dans le camp du sélectionneur Didier Deschamps.
Alors, Allemagne, 26e journée, le Bayern ne doit plus rien lâcher.
Après la semaine la moins prolifique de sa saison, le Bayern Munich n'a plus le droit à l'erreur. Dans la défense de son rang de leader samedi contre le Werder Bremen, 13e en championnat, surtout à 4 jours du second duel avec la Juventus.
En Angleterre, Newcastle limoge son entraîneur Steve McLaren.
Avec effet immédiat, John est dans la foulée. Rafael Benitez, limogé du Real Madrid en janvier, ancien entraîneur de Liverpool, prend la relève. Et lundi, Newcastle rencontre le leader Leicester.
Espagne, l'emballage final approche en championnat d'Espagne.
Le Barça aborde en tête la dernière ligne droite à 10 journées de la fin et peut maintenir son rythme infernal en tête samedi contre Getafe. Tandis que le Real Madrid espère ne pas décrocher dimanche à Las Palmas pour la 29e journée. Faut-il le dire, Anastasie, le Real part de loin.
Oui, il faut le dire.
FIFA, corruption, l'ex-dirigeant vénézuélien Esquivel libéré sous caution.
Oui, Raphaël a dû payer une caution de 7 millions de dollars. Il devra toutefois résider dans la région de New York ou en Floride et portera un bracelet électronique. Il résidera dans une résidence surveillée 24 heures sur 24 par des caméras. Il a également dû remettre ses passeports aux autorités américaines et la NBA John.
LeBron James remporte son dernier duel face à Kobe Bryant.
Les deux mégastars de la NBA se sont affrontés ce jeudi pour la dernière fois dans un spectaculaire duel qui a tourné à l'avantage du cadet King James et de ses Cleveland Cavaliers 120 à 106.
Ça devait être quelque chose.
Oui, et San Antonio, bien sûr, malgré les 40 victoires de suite, Parker refuse de s'emballer. L'objectif, c'est de gagner le titre.
Merci, Eric.
Le Monde aujourd'hui, VOA Afrique.
Anastasie Tudiech et John Lyndon en votre compagnie, place au-dessus du jour, première escale, le Niger.
Oui, John, le Niger où l'opposant Amadou va maintenir sa participation au second tour de l'élection présidentielle du 20 mars face au président sortant Mahamadou Issoufou. Il est écroué depuis novembre dans une affaire controversée de trafic d'enfants. Aujourd'hui, il a été évacué de la prison de Filingué vers un hôpital de Niamey. Certains médias ont vite annoncé qu'il avait bénéficié de la liberté provisoire pour raison de santé. Idriss Fall a joint son avocat Maître Siley Oumara.
Il y a une très grande intoxication qui est faite. Un certain nombre de personnes malveillantes sont en train de diffuser dans le monde entier que le président Mahamadou a bénéficié d'une liberté provisoire pour des raisons de santé. Je tiens à démentir formellement cette information. C'est vrai que Mahamadou a un problème de santé sérieux. Il avait effectivement introduit une demande de liberté provisoire à cet effet en produisant un certificat médical d'un professeur agrégé en médecine de Paris. Malgré cette urgence, la cour d'appel de Niamey a décidé de fixer l'audience concernant sa liberté provisoire pour le 14 de ce mois, c'est-à-dire lundi prochain. Même si la cour répondait favorablement à sa demande, ne sera pas connu avant la fin du mois de mars 2016.
Mais on nous a dit que Hama est sorti de la prison de Filingué. Qu'est-ce qu'il vient faire à Niamey alors?
Je vous dis que Hama Amadou était dans une situation critique aujourd'hui à la prison civile donc de Filingué. Il est dans un état très critique. Il a perdu connaissance et on est en train donc de le ramasser pour l'amener à l'hôpital de Niamey où dans tous les cas, l'équipement et les moyens nécessaires pour le soin n'existent pas sur place. Si on ne prend pas garde, ça attend tout simplement à ce que Hama Amadou, par cette détention, perde la vie.
Hama est accusé dans une affaire présumée de trafic de bébés, mais Abdoul Labo, candidat à la présidentielle, lui, il est relâché.
Non seulement cette affaire, ce qui est très important, c'est que jusqu'à aujourd'hui, Hama Amadou n'a été présenté à aucun juge. C'est la première chose. La deuxième chose qu'il y a, on entend Hama à gauche, Hama à droite, on l'accuse de faits pour lesquels il n'a pas été condamné. Et de l'autre côté, nous avons quelqu'un qui est poursuivi de la même affaire, qui était ministre d'État à l'époque des faits, qui a été emprisonné puis libéré, qui était candidat à la présidence de la République, qui aujourd'hui est en train de soutenir la candidature du président Issoufou Mahamadou au deuxième tour. Nous ne comprenons pas comment Issoufou Mahamadou, candidat au deuxième tour contre le même Mahamadou, a accepté le soutien politique pour quelqu'un qu'il considère avoir commis des faits criminels. Je vais vous dire que ce qu'il s'agit tout simplement cette affaire, de mettre Hama Amadou hors d'état de nuire, sinon d'attenter à sa vie.
Maître Siley Oumara, l'un des avocats de l'opposant Hama Amadou au Niger.
Dossier spécial, le cauchemar des migrants africains vers l'Europe. Ils sont des centaines de milliers qui traversent la Méditerranée au péril de leur vie.
We moved yesterday to Italy. What happened in the sea was this.
On est parti hier pour l'Italie. Ce qui s'est passé quand on est parti, on ne savait pas que le bateau avait des fuites. Le bateau était en train de couler. On a appelé à l'aide en Libye. On a attendu 30 minutes à une heure. Les secours sont arrivés. On remercie Dieu pour tout ce qu'il a fait pour nous. N'eussent été les secours, nous serions tous morts.
Retrouvez notre page spéciale consacrée à ce dossier sur voaafrique.com et sur Facebook.
Au Tchad, point de presse ce vendredi du président du Conseil constitutionnel, Nga Nagum Yamassoum, s'est prononcé sur le rejet de la candidature de l'opposant Garleji Yurongar, qui soutient avoir été injustement écarté de la course à la présidentielle. Les précisions de Timothée de Nangmaï.
Pour rappel, le Conseil constitutionnel tchadien a invalidé 9 candidatures sur 24 déposées pour la présidentielle du 10 avril. Celle de l'opposant fédéraliste Ngarledji Yorongar a été rejetée pour défaut d'emblème et de photo. Ce dernier a introduit un recours gracieux en vain. Ce vendredi, le président du Conseil constitutionnel tchadien a tenu à éclairer l'opinion sur ce cas spécifique de Ngarledji Yorongar.
Un candidat qui a omis de produire ces deux pièces proclame urbi et orbi que jamais on ne lui a réclamé ces pièces auparavant, alors qu'il a déjà participé à plusieurs compétitions électorales. Ces allégations ont naturellement été reprises aussi abondamment que complaisamment par la presse nationale et étrangère, pas toutes, heureusement, une partie des hommes politiques aussi bien à l'intérieur qu'à l'extérieur. Je voudrais donc, sans esprit polémique, informer simplement l'opinion nationale et internationale que ce candidat a bel et bien fourni dans le passé un emblème et des photos. Ces deux documents ont été dûment enregistrés au greffe du Conseil le 18 février 2011 sur le numéro 10, comme en témoigne le récépissé 6 juin.
Le président du Conseil constitutionnel du Tchad, Nagum Yamassoum, s'exprimant sur le cas du député Ngarledji Yorongar, un des 9 candidats à la présidentielle du 10 avril recalé par le Conseil. C'est un extrait fourni par notre station partenaire FM Liberté, N'Djamena. Et selon nos sources, N'Djamena, le président du Conseil constitutionnel tchadien, ne s'est pas exprimé sur les cas des 8 autres candidats recalés.
VOA Afrique, N'Djamena, au Tchad, 24 heures sur 24, 93.1 FM.
Au Gabon, remous au sein du Parti démocratique gabonais au pouvoir. Plusieurs caciques du régime ont annoncé leur intention de présenter un candidat face au président sortant, Ali Bongo Ondimba. Alexandre Barrault-Chambrier, chef de file du courant dit « Héritage et modernité », député et ancien ministre, a dénoncé l'auto-investiture du président Bongo, alors que selon lui, je cite, « ce sont les militants qui doivent choisir ». Fin de citation. Que signifie cette fronde au sein du PDG? Idriss Fall a joint à Libreville Francis Evouna, président du patronat gabonais.
La nature humaine a ceci de particulier. Tout le monde ne peut pas être d'accord. Tout le monde ne peut pas avoir la même analyse d'une situation. Je crois qu'à l'intérieur du parti, il y a également un problème de communication, un problème de vision, un problème de mieux articuler et d'harmoniser les fondements et les valeurs qui créent le Parti démocratique gabonais. Ceux qui estiment aujourd'hui diront qu'ils sont peut-être de l'héritage et modernité. Mais ceux qui pensent également qu'il y avait la continuité, celle qui ne plaît peut-être pas à ces caciques-là, nous nous retrouvons avec ces remous-là, puisque les uns et les autres n'arrivent pas à s'accorder.
Ce n'est pas la première fois. Un certain Jean Ping aussi était un ancien cacique du PDG et aujourd'hui passé à l'opposition.
Ce qu'on appelle opposition et ce qu'on appelle le pouvoir. Mais celui qui est au pouvoir, il est normalement désigné comme étant celui à qui le peuple a donné, puisque nous vivons dans des régimes démocratiques. Et quand on pense que le peuple ne se retrouve plus en quelqu'un, on dit, bon, on s'oppose à ceux qui sont dans le pouvoir, qui n'arrivent pas peut-être à satisfaire tant bien que mal les préoccupations majeures des populations et la valeur qui fonde justement le vivre ensemble. Qu'il y ait opposition ou qu'il y ait majorité, il faut que les plus d'un même pays se retrouvent pour réfléchir, chacun dans sa différence, amener le peuple et qu'on l'amène véritablement vivre du produit de son pays en termes de richesse, en termes d'évolution, en termes même d'éducation des masses.
Maintenant, est-ce que ces remous vont avoir une incidence dans la prochaine élection présidentielle?
Si on veut qu'il y ait apaisement, je voudrais vous rappeler que Jésus-Christ, qui avait porté la croix pour l'humanité, avait laissé une prière. C'est le Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié. C'est délivre-nous du mal. Est-ce que nous allons être véritablement délivrés de ce mal-là parce que les uns et les autres n'arrivent pas à se parler? Je crains que nous devions faire en sorte que le dialogue, rien que le dialogue entre fils et filles d'un même pays, fasse en sorte qu'il n'y ait pas ces remous-là. Mais je sens, avec tout ce qui se passe aujourd'hui, que nous ne sommes pas loin de ces remous-là.
Francis Evouna, le président du patronat gabonais, joint à Libreville par Idriss Fall.
En plus de nos programmes sur FM et ondes courtes, La Voix de l'Amérique est en votre compagnie 24 heures sur 24 sur Internet. Notez notre nouvelle adresse voafrique.com. Tous les derniers développements sur l'actualité africaine et mondiale, reportages, photos et vidéos, et vos commentaires sur voafrique.com. À tout de suite.
La tension monte dans l'est du Cameroun entre les autochtones et les chercheurs d'or chinois. Les locaux accusent ces étrangers de n'avoir pas tenu leur promesse d'aider au développement de la région. Un reportage de notre correspondant Moki Edwin Kinzeka, rendu par Lionel Gaïma.
Les mineurs locaux ont commencé à extraire de l'or autour de Betare-Oya en 2007. Les Chinois sont arrivés 3 ans plus tard avec d'importantes ressources. Ne pouvant pas leur faire concurrence, leur pailleur Emmanuel Manga s'est converti en conducteur de mototaxi. Maintenant, il gagne à peine 30 000 francs CFA par mois, à peine le quart de ce qu'il gagnait avec l'or.
Sincèrement, il faut qu'ils laissent les Camerounais mener des petites activités, que ce soit au niveau informel ou formel. Ils s'approprient beaucoup des activités que les Camerounais peuvent mener. Tu vas les voir dans les réseaux de mines. Là, on creuse les mines, ils sont partout. Et tu vois, ça rend les Camerounais pauvres. Et non seulement qu'ils prennent aussi la main-d'œuvre crée moins chère, mais aussi les Camerounais deviennent un peu désœuvrés, donc ils prennent leur travail.
Près de 300 mineurs chinois sont actifs dans la zone. C'est 3 fois plus que le nombre autorisé par les autorités. Ils ont mis de gros moyens, des tracteurs, bulldozers, de gros appareils pour remuer la terre, creuser et détecter l'or plus rapidement. Les orpailleurs locaux en sont toujours à du matériel rudimentaire comme la pioche et la pelle. Leur frustration et colère se sont vite transformées en une sorte de xénophobie, une frénésie anti-chinoise. Des pneus sont crevés, des engins endommagés et même quelques mineurs étrangers ont été attaqués. Des dizaines de Chinois apeurés ont dû fuir vers les villes voisines et ne revenir qu'à des rares occasions, rares pour superviser leurs affaires. Adamu Asamu, un chef traditionnel local, estime que le développement promis au départ n'est toujours pas au rendez-vous.
Le gouverneur avait ordonné que tous ceux qui vont entrer ici comme Chinois pour exploitation doivent avoir une parcelle pour construire avant de commencer à travailler. Le gouverneur avait insisté sur ça. Quand le gouverneur était déjà parti, ceux qui avaient déjà payé les parcelles ont libéré de ces parcelles, donc ils préfèrent rester en plus là-bas. S'il y a les Chinois en vie, c'est les boss, leur patron, directeur. Mais les sous-boss sont en brousse, les grands camps en brousse. Quand ils entrent en ville, c'est pour payer les vivres.
Toutefois, Chris Ho, dont la compagnie a obtenu un permis temporaire d'exploitation d'or, rejette ces accusations. Selon lui, la société a aussi permis la construction des routes, fourni des générateurs électriques et de l'eau potable. Nous avons construit beaucoup de maisons et beaucoup d'autres choses. Les Chinois qui sont venus ont apporté beaucoup de choses et sont en train de changer la vie parce que les Chinois et Camerounais sont ensemble et se comprennent beaucoup mieux. Le Ghana, grand producteur d'or, a connu des pareilles tensions. En 2013, le gouvernement d'Accra a arrêté et déporté des milliers d'illégaux chinois. L'économiste Emmanuel Mihamle estime que le Cameroun pourrait en faire autant malgré ses relations de longue date avec Pékin.
La Chine, pendant longtemps, a déjà investi au Cameroun. C'est-à-dire que nous avons, par exemple, le palais de Cameroun qui a été fait par les Chinois, les hôpitaux qu'ils ont construits au Cameroun. Mais en compensation, il y a aussi ce que le Cameroun offre à la Chine. Je prends, par exemple, le cas des matières premières, cité sûrement l'or. On peut voir le cas aussi même du diamant, on peut aussi voir même sûrement le bois. Bon, toutes les ressources que nous produisons, qui ne sont pas directement transformées par nous-mêmes et qui sûrement sont exportées vers l'extérieur, dans le pays de la Chine.
Déjà en 2014, le gouvernement de Yaoundé avait sévi contre ce qu'il qualifiait d'exportation illégale de l'or et du diamant et avait suspendu quelques contrats miniers signés avec des compagnies étrangères.
C'est la fin de cette édition à la mise en onde de Lionel Gaïma, à la console Sidrak Franklin, présentation Anastasie Tudiesh et John Linden.
Ainsi va le monde aujourd'hui. On continue notre conversation via Facebook. Partagez avec nous vos impressions, vos photos. Posez-nous des questions et n'oubliez pas de visiter notre site internet voafrique.com pour plus d'informations 24 heures sur 24. Belle soirée à l'écoute de VOA Afrique.
Vous écoutez Le Monde Aujourd'hui, diffusé partout en Afrique francophone. N'Djamena sur 93.1 FM. Kledou FM Bamako. Raga FM Goma. 96.5 Fraternité FM Parakou Bénin et bien d'autres encore, sans oublier sur Ondes Courtes. Le Monde Aujourd'hui sur VOA Afrique.